peut pas plaire à tout le monde. Ça a été un objet de scandale. Chez les religieux, évidemment. Parce qu'ils m'ont dit que c'était un instrument de mort, l'épée. Alors, oui, c'est un instrument de mort, c'est une épée. Vous voyez, elle a double tranchant. Et moi, je connais un peu la Bible. Je sais que dans la Bible, il est écrit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen.
Oui.
Et puis, en plus, c'est pas une épée... c'est pas n'importe quoi comme épée. C'est une épée, là, vous avez l'étoile de David, là, vous avez une menorah, pour ceux qui savent ce que c'est. Je ne vous dirai pas. Cherchez. Et puis là, vous avez l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas, avec deux anges. Vous savez que l'arche de l'Alliance avait deux statues. Et c'était dans le lieu très saint de Dieu Tout-Puissant qui avait dit « Tu ne te feras pas ». Dimanche, Taïe a voulu que dans le lieu le plus saint qui soit, il y ait deux anges. Mais Dieu se contredirait-il? Ça me trouble, mon Dieu. Dame Ned, je suis joué. Non, professeur. Il faut être sérieux. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alors, pendant des années, nous avons mis cette épée qui m'avait été gentiment offerte par un ami qui s'appelle Laurent Bourg, qui est devenu brahmaniste, il paraît. Vous saviez ça?
Non.
Il est devenu brahmaniste. Que Dieu le bénisse, pourquoi pas, hein? Et il m'avait offert ça, je me rappelle toujours, dans les salons de chez Maxime, où nous avions fêté mes 50 ans. Vous vous rappelez de ça? Vous étiez tout ça, je crois, hein? Sauf les nouveaux. Bon, on fêtera mes 64 ans, parce que c'est dans quelques jours, mais peut-être mes 70 ans. Non, mes 65 ans, c'est beaucoup plus proche. Hein? Bon. Et ce matin, je l'ai enlevée, mais on la remettra, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On la remettra, mais pour ce matin, j'ai décidé de mettre ce crucifix qui m'a été offert par la famille Pingo. Vous vous rappelez la famille Pingo?
Oui.
Des gens admirables, des chrétiens qui vivaient dans le monastère très catholique de Verneuil-sur-Avre et qui faisaient de l'accueil. Ils recevaient des drogués, des gens de toutes sortes de situations terribles. Même elle avait failli être égorgée par un malade mental là-bas dedans. Et c'était des amis, c'est toujours des amis, c'est des gens extraordinaires. Dernièrement, ils m'ont envoyé une carte de vœux et il y a une photo d'une petite fille qu'ils ont adoptée. C'est une petite fille qui on dit comme ça, qui est mongolienne, c'est ça? Trisomique, on dit. Qu'est-ce que c'est ce son-là? Je crois que c'est la deuxième enfant trisomique qu'ils ont adoptée. Ce sont des gens qui ont une bonté, un amour, moi, je bouleverse ces gens-là et je les aime beaucoup. Si vous m'écoutez, la famille Bingo, Dieu vous bénisse, enfin, vous bénisse, et vous êtes mes amis. Et puis, un jour, quand ils ont quitté ce monastère, ils m'ont invité, ils m'ont dit, choisis quelque chose, nous te l'offrons. Et ils m'ont offert ce crucifix magnifique, qui, c'est pas de la camelote, hein, c'est quelque chose de très beau, ça c'est embêtant, ça, ce son-là. C'est un beau bronze. Et puis, voilà, je sais que nous vivons dans un pays catholique où la plupart des chrétiens évangéliques sont d'anciens catholiques et puis ça les choque de voir une croix avec Jésus dessus parce que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. C'est vrai, Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité, mais mes frères et sœurs, n'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit « Je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi Jésus-Christ crucifié? Bien, mes frères et sœurs, c'est ce que je voudrais porter ce matin comme message. Pourquoi Paul veut-il que nous n'ayons chez nous dans la pensée, dans le cœur, dans toute notre vie, 24 heures sur 24, cette idée de Jésus-Christ crucifié? Je vous demande de lire dans psaume 30, verset 6 à 7 d'abord. Psaume 30, c'est David. Une centaine d'années avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, et il dit, « En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûr du Seigneur. » Amen.
Amen.
À
adorateur de faux dieux. Évidemment, on ne va pas adorer cet objet. Vous savez, j'ai une culture protestante, pour moi, c'est juste un objet d'art qui me fait penser à quelque chose de magnifique. Jésus-Christ crucifié, je crois qu'il n'y a jamais eu sur la terre un événement aussi important qu'au moment où Jésus-Christ était élevé en croix. Les paroles qu'on vient de lire sont les paroles de David, longtemps avant que Jésus soit venu pour nous racheter. Il prophétisait, c'était un homme de foi, et il prophétisait que le Seigneur, Dieu de vérité, était un Dieu rédempteur, un Dieu qui rachète les siens. Parce que rédempteur, ça veut dire racheteur. Non, mais je dis parce que même en pastoral, une fois j'ai posé la question dans une pastorale, qu'est-ce que c'est que rédemption ? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui savaient. Hein. C'est terrible, hein ? Rédemption. Depuis que David a prononcé ces mots en disant que Dieu était le rédempteur, eh bien Jésus est venu. Et l'œuvre de la rédemption a été accomplie. Quand Jésus a dit « tout est accompli », ça veut dire « j'ai tout, je les ai rachetés ». Amen. L'œuvre de la rédemption était accomplie. Alors, ce n'est pas avec la même sorte de foi qu'avait David que nous venons vers le Seigneur aujourd'hui, c'est avec une foi dans ce qui a déjà été fait. David, il voyait ça comme quelque chose qui allait être fait. Il disait « tu me rachètes », mais il savait que l'acte de rédemption n'avait pas encore été fait, mais il le parlait, il le disait comme un homme de Dieu inspiré, parce qu'un homme de Dieu inspiré sait que le temps, ben voilà, c'est une création dans laquelle on évolue. Mais en réalité, Dieu n'est pas autre chose qu'un rédempteur. Il est plein d'autres choses, il est tout. Mais il est rédempteur. C'est avec foi dans ce qui a déjà été fait que nous pouvons dire « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon âme, tu m'as racheté, ô Dieu de vérité. » Quand on mesure nos faiblesses, on a raison d'appréhender la mort éternelle, on a raison à cause de nos nombreux péchés, à cause de nos offenses envers Dieu, parce que nos péchés, c'est... Alors beaucoup de gens se repentent parce qu'ils ont péché, puis ça ne leur apporte que du malheur, mais en fait la repentance, c'est se repentir d'avoir offensé Dieu, c'est autre chose. Eh bien on a raison, n'est-ce pas, d'appréhender la mort éternelle. Mais nous avons une bien plus grande raison d'espérer dans la vie éternelle. Et je vais vous dire le pourquoi. Ce que Jésus a accompli à notre place, sa mort, son sacrifice en croix, est infiniment plus puissant pour notre salut que nos péchés ne le sont pour notre perte. Inscrivez ça dans votre cœur et votre tête. Oui, c'est vrai, nous avons tous péché, et ça nous a placés dans la position de mériter l'enfer, c'est vrai. Mais le Rédempteur, celui qui nous a rachetés, il s'est chargé de nos fautes, il a payé la dette que nous avions envers Dieu, il a payé le prix de notre dette par sa souffrance, des souffrances abominables. Parce que c'est vrai que ce sont de nos maux qu'il s'est chargé, parce que c'est vrai que ce sont bien nos douleurs dont il s'est chargé. On trouve ça dans Ésaïe 53, verset 4. C'est vrai, il a fait. Oui, c'est vrai. Et qu'à l'instant où nous avons péché, Dieu a décrété notre condamnation à l'enfer, à la mort éternelle. C'est vrai, mais... Jésus a détruit l'acte légal, qui était écrit contre nous, et il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Et ça, c'est Colossiens 2,4 qui nous l'affirme. Il y avait un acte légal contre nous, parce que nous avons péché, alors Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est qui mourra, mais Jésus est venu, il a porté nos péchés sur lui, et maintenant, l'acte légal qui nous condamnait, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait proclamé, ça a été cloué à la croix, Colossiens 2,4. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Eh bien, il a effacé, avec son sang, le décret légal de notre condamnation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié, parce que si ça n'avait pas eu lieu, nous serions les plus malheureux des hommes. le monde qui ne veut pas croire ça commet la faute, le péché le plus grand qui soit. Tous les péchés, il y en a des plus horribles que d'autres. Mais imaginez le pire des péchés, ben c'est rien à côté du fait de ne pas croire que Jésus-Christ est venu et qu'il a porté nos péchés à la croix. C'est ça le blasphème, l'insulte suprême contre le Saint-Esprit. Et nous, quand nous voulons regarder la sentence méritée par nos péchés, on est obligé de regarder à la croix, parce que cette sentence, cet acte qui nous condamnait, il est cloué là, il est cloué là. Ce décret de mort, cette condamnation que nous méritions, il est cloué là, sur cette croix. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus qui coulait sur cette croix a crié « Pitié !» avec plus de force que celui d'Abel qui criait « Vengeance !» Voilà ce qui fait que nous sommes heureux, c'est-à-dire en marche sur une voie droite qui va direct au ciel. Simplement si nous respectons, si nous croyons ce qu'il a accompli là sur la croix. C'est qu'après avoir fauté, nous avons eu recours à Jésus-Christ et à Jésus-Christ crucifié. Nous avons contemplé sa croix. Est-ce que vous avez déjà passé une heure dans votre vie à contempler la croix de Jésus? Je ne dis pas de contempler une statue, mais dans votre pensée, dans votre imagination, de contempler comme si vous étiez quelqu'un là, un spectateur de l'événement, contempler ce qui s'est produit là, entendre les cris, entendre les ricanements de la foule, entendre le bruit des clous qui sont enfoncés, entendre le vent, voir la nuit tomber. Est-ce que vous avez déjà contemplé ça? Est-ce que vous avez contemplé le sang qui coule sur la croix dans les rainures de ce bois infâme? Est-ce que vous avez pensé à ça, à ce sang qui se mêle aux flaques d'eau parce qu'il s'est mis à pleuvoir? Est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous avez contemplé une fois dans votre vie la croix? Jésus a répondu son sang pour s'établir seul médiateur entre Dieu et nous, entre les pécheurs que nous sommes tous et notre Père. Il a plaidé en notre faveur et a gagné. Et il plaide encore. Et il obtient encore le pardon pour ceux qui respectent infiniment son sacrifice. Alors c'est vrai qu'il y aura un jugement. Mais qui sera juge? Jean 5, 22 nous révèle qui sera juge. Voilà ce qui est écrit. Le Père a donné au Fils tout jugement. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 3, verset 17, que celui qui croit en lui est déjà jugé. Il ne sera pas jugé. Pourquoi? Parce que Dieu le Père ne s'occupera pas de vous juger. Il a remis le pouvoir de nous juger au Rédempteur, à celui qui a donné sa vie, qui a souffert abominablement pour vous sauver. Paul s'écrit, quel juge doit prononcer la sentence? Ce même Jésus-Christ qui est mort, se condamnant lui-même à mourir d'une mort atroce, pour que nous ne soyons pas condamnés à la mort éternelle. Qui? Ce même Sauveur qui maintenant encore au ciel intercède en notre faveur. Romains 8, 34. Voilà celui qui va vous juger. C'est gagné d'avance. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il te condamnerait? Pourquoi il te condamnerait celui qui meurt pour t'éviter la condamnation? Quand tu te jettes à ses pieds, est-ce qu'il va te chasser? Lui qui est venu du ciel à ta recherche, alors que tu fuyais dans une mauvaise voie, il est venu, il t'a cherché. Ce n'est pas toi qui l'as cherché, c'est lui qui t'a cherché. Alors il te rejetterait aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, relevez la tête, ne vous laissez pas accuser par le diable. Relevez la tête avec foi. Oui, votre Rédempteur est vivant. Amen, amen, amen. Amen,
amen.
Oui, je suis racheté. Oui, j'appartiens à celui qui est pour moi mon salut. Oui, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Il a payé, je suis à lui. Maintenant,
Ben, il y a la vie.
As-tu peur de succomber aux assauts des ennemis? Parce qu'il te reste des ennemis. Il te reste des ennemis à vaincre, n'est-ce pas? Le pire ennemi que nous ayons, c'est nous. Nous-mêmes, moi. Moi, je suis mon pire ennemi. Pas vous? On dit toujours, oh, j'ai des ennemis, machin, machin. Non, votre pire ennemi, c'est vous-même. As-tu peur de ne pas y arriver? As-tu peur de perdre mon chemin, d'abandonner? As-tu peur? Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent? Elles nous disent, cours au combat qui t'est offert, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, lui qui, au lieu de la joie qu'il avait devant lui, a souffert la croix en ne tenant pas compte de l'ignominie. Ça, c'est écrit dans Hébreux 12, 12. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. En tout cas, moi, ça m'ouvre les yeux de lire les Écritures. N'aime pas lire. Ouais, mais t'es un crétin si t'aimes pas lire. T'as besoin d'apprendre à lire. T'as besoin de lire. Il faut que tu lises. Parce que si tu lis pas, tu ne peux pas avoir la révélation. Le Saint-Esprit te révélera rien du tout. Il ne fera que de te rappeler les choses que tu as lues, que tu as entendues, que tu as besoin d'apprendre à lire. Il faut que tu saches lire. C'est important. Qu'est-ce que j'apprends en lisant ce texte? Qu'est-ce que mes yeux voient? Eh bien, que mon combat, que ton combat, celui qui est ton combat, t'est offert. C'est-à-dire que c'est un cadeau. Ton problème, c'est un cadeau. Ton combat, c'est un cadeau. Hey, c'est ce qui est écrit. Cours au combat qui t'est offert, les yeux fixés sur Jésus. Vous aviez déjà fait attention à ça? Ce dont vous vous plaignez tellement là, votre problème qui vous surpasse, aïe aïe aïe, si j'avais pas ce problème, ce serait trop bien. Mais c'est un cadeau ton problème, tu es le seul à l'avoir, personne là, il n'y a que toi. C'est un cadeau, accepte ce cadeau, accepte de bon cœur ce combat qui est un cadeau de Dieu, les yeux fixés sur Jésus crucifié, qui de sa croix te promet son assistance, te promet sa protection, te promet la victoire, te promet une couronne. De sa croix, il te promet tout ça. Donc ça vient encore de la croix, de la puissance de la croix. Je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Tu es mon rédempteur. Et ça s'est passé à la croix. Dans ton passé de croyant, je m'adresse aux chrétiens là. Dans ton passé de croyant, tu es tombé. T'es arrivé. Tu es tombé pourquoi? Pour avoir détourné ton regard de ses plaies. Tu as oublié de regarder Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je le mets sous ton esprit. Parce que tu t'es détourné de ses plaies. Tu as oublié, tu as détourné ton regard de ses plaies, de ses humiliations, des humiliations de ton Rédempteur, de celui qui te rachetait. Tu as détourné ton regard et tu as continué sur ta propre voie en négligeant d'implorer le secours du crucifié. Mais il y a un avenir. Il y a un avenir. Si tu te rappelles fidèlement combien il a souffert par amour pour toi, si tu vas contempler ses plaies, si tu vas contempler Jésus-Christ en croix, si seulement tu prends une heure dans ta vie pour aller, en tant que chrétien, pour aller contempler Jésus en croix, qui a souffert par amour pour toi. Si tu vas le contempler, que tu regardes combien il s'est empressé de répondre à ton cri de détresse intérieure, même avant que tu existes, eh bien, je te le dis en vérité, tes ennemis n'arriveront pas à te vaincre. Pourquoi avoir peur de toi-même? Pourquoi avoir peur de tes faiblesses? Pourquoi avoir peur des démons qui te tourmentent? Invoque le nom de Jésus et ainsi tu feras trembler les démons et tu réduiras ta chair à la soumission. Mon frère, ma soeur, aucun effort de ta part ne sera efficace sinon de fonder ta confiance en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sans que tu y mettes ta foi, ta confiance, tu ne pourras jamais admettre avec certitude que tout ce que je te dis là est vrai. Il faut que tu aies la foi, et la foi tu l'as. Tu as la foi, tout le monde a la foi. tout le monde à la fois. Celui qui s'assied sur une chaise, il a la foi. C'est-à-dire, il ne réfléchit pas, il n'étudie pas, il ne prend pas à mettre un poids machin pour mesurer ce que la chaise va pouvoir tenir. Non, il s'assied dessus. Il a la foi, il a confiance. Eh bien, cette foi, plutôt de la poser tout le temps sur une chaise, place-la en Dieu, place-la en Jésus, place-la cette foi dans ce qu'il dit, lui, en ce Dieu tout-puissant qui s'est fait homme, qui a répandu son sang, qui est mort de douleur atroce à la croix, qui s'est fait rançon pour tes péchés et qui s'est fait gage de ton salut. Tout ça pour qui? Ben pour toi, pour moi. Pour toi et pour moi, qui ne sommes en fait que des vers de terre révoltés. C'est-à-dire, c'est vraiment... J'ai lu des livres extraordinaires, j'aime beaucoup Bernard Berber, et il parle des fourmis. Et nous, on regarde les fourmis. Les fourmis, je crois, quelque chose de très important. Certainement, elles sont très importantes. Elles sont plus nombreuses que les êtres humains sur la Terre. Hein? Mais bon, c'est quand même pas elles qui... Bon, mais voilà, quoi. Ben, on a un petit peu des fourmis. Puis on est là, des petites fourmis mirantes avec des petits points mirantes. Mais qu'il y a Dieu ? Fourmis, vers de terre. Alors, dis avec moi, oui, je vivrai dans la confiance, je ne veux plus avoir peur. Mon espérance est inébranlable dans mon Seigneur. Dieu ne me refusera pas son aide, lui qui a tant souffert pour moi. Je ne peux pas croire qu'il me refusera son aide. Bien sûr, j'ai un allié, mais il est avec moi. Amen. L'apôtre dit... C'est bien simple. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce et tous les secours dont nous avons besoin. Hébreux 4, 6. Mais mes frères et sœurs, s'il est sur le trône de la gloire, de la grâce aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté la croix, c'est parce qu'il a accepté la croix qu'il est maintenant dans la position de régnant. Tu ne peux pas aller vers lui si tu ne crois pas tout ce qu'il a fait sur la croix. Mais il ne règne que sur ceux qui veulent que Jésus soit leur roi. Il est rempli d'amour, il ne va pas s'imposer à toi, il ne t'obligera pas. Il est le sauveur de quiconque lui fait confiance. Moi je ne fais pas confiance. C'est parce que tu ne le connais pas que tu ne lui fais pas confiance. C'est parce que tu es un inculte, c'est parce que tu ne sais pas. Parce que tu connais des trucs religieux, parce que tu as entendu dire, mais tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, parce que tu n'as jamais pris le temps de contempler la croix, tu n'as jamais fait attention à ces choses, tu n'as pas lu les Écritures sérieusement. Voilà pourquoi tu ne crois pas. Si tu savais, tu croirais. Mais tu sais que des broutilles de trucs religieux que tu as entendus, qui sont plus ou moins déformés, voilà pourquoi tu ne crois pas. Si tu savais qui est le Seigneur. Il est le roi de ceux qui veulent de son autorité dans leur vie. Il est ton sauveur ? Bien. Alors invoque son nom. Continue à invoquer son nom et demande-lui qu'il devienne ton Seigneur. Parce que sauveur, c'est bien, mais maintenant il faut qu'il soit ton Seigneur, ton maître, ton roi. Il va régner sur ta vie. Il va enlever les pierres qui obstruent ton chemin. Il va le faire. Il viendra à ton secours chaque fois que tu en auras besoin. On vient de le lire. Paul dit que si vous avez eu Jésus comme sauveur et Seigneur, il dit que si vous êtes caché en lui, vous êtes riche en toutes choses, au point que rien ne peut vous manquer et aucune grâce. 1 Corinthiens 1, 5, 7. Alors, qui ment, toi ou Paul? Par sa mort, Jésus nous a apporté une somme bien supérieure aux dommages que les démons ont causés par le péché. Quand je parle avec mon frère Francis, qui me raconte combien il dépensait dans les bistrots, combien il a perdu, combien le diable lui a fait perdre d'argent, je dis que c'est rien à côté de ce que Dieu peut te faire gagner d'argent, mon frère, parce que c'est toute chose que le Seigneur veut te donner. Amen. Amen. Toute chose. Pas seulement des trucs spirituels. Il y a un chrétien TTTS, vous savez, TTTS, un très très spirituel, qui m'a écrit cette semaine pour me dire, vous semblez riche, donc vous devez être peu spirituel. marché. Pardon, ça me donne envie de rire.
Oui, mes frères et sœurs, nous avons plus gagné par la grâce de Jésus-Christ que nous n'avions perdu par la haine du diable. Amen.
Amen.
Paul, il le dit encore plus clairement. Écoutez ce qu'il dit. Les bienfaits de la rédemption dépassent les ruines occasionnées par le péché. Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 15. Ben, j'aime ça. Mais j'aime bien paraphraser aussi ces textes pour mieux les comprendre, en extraire l'essence. Et c'est pourquoi j'ai dit nous avons plus gagné par la grâce de Jésus que nous n'avions perdu par la haine jalouse du démon.
Amen.
Alors, placez-vous au bénéfice de Jésus qui a tout accompli. Si vous le faites, alors, seulement alors, cette parole de Jésus sera pour vous. Sinon, elle n'est pas pour vous. Mais si vous faites ça, si vraiment vous faites ça, si vraiment vous vous mettez au bénéfice de Jésus, de ce que Jésus a accompli à cette croix, eh bien, cette parole est pour vous. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 16, 23. On ne brise pas les lois. Il y a des conditions. Il faut que tu fasses confiance à ce que Jésus a accompli sur la croix pour le pardon de tes péchés, mais aussi pour le salut dans ta vie de tous les jours. Pas seulement pour le salut dans la vie éternelle, mais pour ton salut dans la vie de tous les jours, ta protection, l'aide, l'inspiration, tout. Sauvé de la bêtise, sauvé de la religion. Jésus est le sauveur. Est-ce que c'est étrange? Non, c'est pas étrange. Parce que le Père, nous ayant donné son Fils, nous donne toutes choses avec lui. Romains 8, 22. Vous avez déjà lu ça? Le Père, nous ayant donné son Fils, nous donne toutes choses avec lui. Vous avez bien entendu, toutes choses. Une condition. De croire et de prier. Prier, c'est manifestation de la croyance. Si tu ne crois pas, tu ne demandes rien. Si tu ne crois pas que ton papa peut te donner un bout de pain, tu ne vas pas lui demander. Puis, évidemment, tu n'auras pas le bout de pain. À moins qu'il se rende compte que tu crèves vraiment de faim, puis il pleuvra un petit peu, quoi, quand même. C'est ce que Dieu fait avec les gens de ce monde. Mais ils ont des broutilles, des miettes. Il faut le prier. Parce qu'il est riche pour ceux qui l'invoquent. Romains 10, 12. Riche de quoi? De toutes choses. Pas seulement les choses spirituelles, mais riche de toutes choses, des choses qu'il a créées, qui sont là autour de vous, qui sont à votre disposition. Il veut bien vous les donner si seulement vous invoquez son nom. Entre Dieu le Père et vous, il n'y a que Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut briser ce lien. Dieu le Père, vous et Jésus-Christ. Personne sinon vous-même. Vous pouvez briser ce lien. Si tu gardes foi en lui, voilà ce que Jésus dit à tes ennemis et même à la mort. Vous savez ce qu'il dit à la mort? Il dit, mort, je serai ta mort. Ça signifie que s'il y en a qui se perdent, ce n'est pas que la rédemption est insuffisante, ce n'est pas que le prix que Jésus a payé à la croix est insuffisant. Non, c'est juste que leur refus, c'est juste à cause de leur refus de s'approprier le salut. C'est le fait de refuser de s'approprier le salut, c'est ça qui les pousse dans l'échec, c'est-à-dire dans le péché, et finalement dans la mort éternelle. C'est pas que Dieu n'a pas suffisamment fait. C'est qu'il méprise ce que Dieu a fait. Vous savez, nos péchés, ce n'est pas lui qui les a commis. Hein. C'est nous. Et pourtant, il a déclaré à son Père, voilà, j'ai péché, tous leurs péchés, c'est les miens. Et il en est mort. Il a demandé la purification de tous nos péchés. Il a demandé que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Et il a obtenu le pardon. Jésus a dit, mon Père, tous ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, moi-même, ils y soient avec moi. Jean 17, 24. Vous croyez qu'il est dans un gourou? croyez qu'il est dans le besoin. Il vous aime, il ne vous abandonne pas, il veut que là où il est, vous y soyez aussi. Il ne vous oublie pas. Il y a un texte dans Ésaïe 49, 16, il y en a qui dit, ah, moi je ne lis pas l'Ancien Testament parce que moi je lis la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. Dans Ésaïe 49, 16, il est dit que mon nom est inscrit dans les mains de Jésus. Alors, ton nom est aussi. Alors, prends courage, ne te laisse pas troubler, parce que les mains qui disposent toutes les circonstances de ta vie sont celles qui, par amour pour toi, ont été trouvées sur la croix. Alors, rien ne peut t'effrayer autant que Jésus a le pouvoir de te rassurer. Rien ne peut t'effrayer autant que Jésus a le pouvoir de te rassurer. Il faut que tu te tournes vers lui. Il faut que tu te tournes vers lui. Il faut que tu ailles invoquer son nom à l'autel, à ton autel de prière et avec les frères et sœurs. En 1977, j'ai dit, ceux qui ne vont pas prier à la réunion de prière, je les exclus de la communauté. Je ne les exclus pas géographiquement, mais dans ma tête, ils n'en font pas partie. Vous ne venez pas prier avec vos frères. C'est quoi ce cirque? Je parle des gens de la communauté. Vous nous laissez porter tout le fardeau. Merci. Rien ne peut t'effrayer autant que Jésus n'a le pouvoir de te rassurer. Mais encore faut-il venir vers lui. Il y a une confusion dans ta tête, il y a quelque chose, une espèce de brouillard. Invoque son nom, seul à ton autel et en communion fraternelle. Le passé avec ses remords, l'avenir avec ses incertitudes, l'enfer avec tous ses pièges, tout ça, rien ne peut me gêner, rien. Mais encore faut-il invoquer son nom. Rien ne peut me nuire car j'invoque le nom de Jésus sur ma vie. Il est ton avocat. Ta cause, c'est la sienne. Ta cause, c'est la sienne. Il en a fait sa cause. Il est ta caution. C'est plus qu'un avocat. Hein. Il est ta caution. Il t'a racheté au prix de son propre sang. Je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas pour t'abandonner maintenant. Amen. Ce n'est pas pour t'abandonner maintenant. Mais c'est pour t'enrichir maintenant. Qui? Toi qui lui a coûté une fortune. Il a payé ce prix-là et maintenant il t'abandonnerait. Non mais ça ne va pas ta tête. Tu le prends pour un idiot. Mais c'est toi l'idiot. Ouais, c'est toi qui ne veux pas invoquer son nom sur ta vie. T'as bien entendu. Il ne t'abandonnera pas. Il veut t'enrichir. Toi qui lui as déjà coûté une fortune, tu lui as coûté sa propre vie. Il l'a donné pour toi. Il est mort à ta place. Imagine un peu. Est-ce que Jésus fuirait ta présence à qui Dieu m'a abandonné? Est-ce que Jésus fuirait ta présence alors qu'il a marché à ta rencontre et à la rencontre de ceux qui cherchaient à le crucifier? Il n'a pas détourné son visage de ceux qui le frappaient, il détournerait son visage de toi qui viens l'invoquer? Non mais tu le prends pour un imbécile. Il détournerait son visage de toi qui viens le prier, qui viens l'adorer. Hey, ta pensée est devenue pervertie. Change de pensée. Adopte la pensée de Dieu. Toi qui crois, qui accepte de croire que le Père Céleste t'a donné son Fils, crois aussi qu'il te donnera tout le reste. Et mon frère et soeur, tout le reste, c'est beaucoup moins que son Fils. T'as bien entendu? Tout ce dont tu as besoin là, ce travail dont tu as besoin, cette voiture dont tu as besoin, cet argent dont tu as besoin, cette guérison dont tu as besoin, tout ça c'est le reste C'est-à-dire, c'est bien moins, il peut te le donner, c'est bien moins que son propre fils qu'il t'a donné. Et il dit qu'il te donnera toutes choses avec son fils. Ne pense jamais que tu t'oublies. Il est avec toi. Seulement, sois avec lui aussi. Amen. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces choses. Mes frères et sœurs, prennent courage que ceux qui ne sont pas encore donnés à toi se repentent de leurs péchés, se convertissent maintenant. Change de vie au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Dieu Tout-Puissant maintenant. Et que ceux qui marchent avec Dieu et qui se sont lassés sur le chemin, qui se sont fatigués, qui ont laissé l'incrédulité et les habitudes mauvaises venir dans leur vie, que cela se repente aussi et change de vie maintenant et regarde à la croix d'où vient tout miracle. Au nom de Jésus-Christ, telle est ma prière. Amen. 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 Dieu vous bénisse.